Abrège avec ta mère, on va louper le début.
Maman, je... Ouais, je raccroche là, c'est... Non, mais c'est le début de l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio.
Ce matin, en sortant de chez moi, j'ai croisé un type qui marchait à reculons. Veste en velours, lunettes de soleil posées à l'envers sur son crâne, un sac plastique à la main qui faisait floc-floc, et il sifflait Super Nana de Michel Jonas. Mais à deux à l'heure, comme un 45 tours passé sur du 33, il avait l'air très heureux. Personne ne lui a demandé pourquoi, moi non plus, et je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui a décidé d'habiter le monde autrement. Et je me suis dit, il y a des gens comme ça, qu'on comprend tout de suite, ils parlent vite, ils parlent efficace, ils sourient au bon moment, le ton est juste, la ponctuation aussi. Et puis il y a les autres, ceux qui décalent un peu le monde, qui marchent à côté du rythme commun, sans partition. Alors forcément ça dérange, ça freine les conversations, ça casse un peu le tempo, ça oblige à sortir du programme. Et là, il y a cette question qui se pose toute simple. Quelle place on laisse à ceux qu'on ne comprend pas tout de suite, surtout quand leur manière d'être au monde nous dérange un peu ou nous échappe. Aujourd'hui, c'est d'un film qu'on parle, mais aussi d'un lien, d'un frère, d'une sœur, de ce fil fragile entre la norme et la différence. L'entretien est avec la réalisatrice Hélène Médic. Elle signe une place pour Pierrot, un film présenté en avant-première le 18 juin au Cinéville à Laval, un film dont l'intention est de regarder la fragilité comme un point de départ. Après cet échange, on ouvre une parenthèse qu'on aime beaucoup dans cette émission. C'est mardi et chaque mardi, on tend le micro à celles et ceux qui nous écoutent, une voix, une lecture, un texte choisi, offert, parfois pour une raison très intime, parfois juste parce que les mots résonnent. On ne sait jamais exactement ce qu'on va recevoir et pourtant on y trouve souvent quelque chose de familier, comme si à travers les mots des autres, on pouvait parfois se retrouver un peu soi-même. Et puis ensuite, on retournera à la Jaillivon dans les allées fleuries de l'étang de Papy. Après avoir raconté le lieu, c'est le quotidien de Charlène qu'on écoute aujourd'hui. Ses gestes, ses choix, son rapport à la terre et au temps, une autre manière de vivre le travail, une autre façon de faire pousser les jours. C'est le deuxième épisode de notre série de reportages aux côtés de Charlène. Et puis, comme chaque mardi, on terminera cette émission avec les mots de Donatien. Sa chronique, c'est sa manière à lui d'attraper l'air du temps, de regarder le monde de biais. Sa voix est singulière, elle referme l'émission à sa façon, en glissant pour nous, peut-être, un dernier grain de sable dans les rouages du quotidien. Pour ce bon moment, je suis en bonne compagnie, comme chaque jour, avec Maxime, l'allié discret, mais essentiel de cette émission. Bonjour Maxime, comment est-ce que tu vas ?
Bonjour à tous, super et toi Margot ?
Eh bien, très bien, puisque ça y est, l'agité du local commence. Bienvenue à l'auditeur qui espérait une rencontre aujourd'hui. Cette émission vous promet ça un peu chaque jour. D'ailleurs, on commence par la rencontre avec une comédienne et réalisatrice. Oui, c'est bien ça, et c'est l'entretien du jour. L'agité du local sur l'autre radio. Alors aujourd'hui, mercredi 18 juin, le cinéma Cinéville de Laval accueille une avant-première du film Une place pour Pierrot, premier long-métrage de fiction réalisé par Hélène Médic avec Grégory Gadebois et Marie Gillin. Un film qui interroge la place de chacun dans une société souvent peu adaptée aux fragilités à travers l'histoire de Pierrot, un homme de 50 ans atteint d'autisme, et de Camille, sa sœur, qui décide de l'accueillir chez elle. La réalisatrice et comédienne Hélène Médic est avec nous aujourd'hui à l'occasion d'ouvrir un dialogue autour du film, de sa fabrication, de ses choix artistiques et de la manière dont la fiction peut permettre d'interroger notre rapport au monde. Bonjour Hélène Médic et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Vous avez longtemps résisté à l'idée de faire un film inspiré de votre histoire familiale. Qu'est-ce qui vous a finalement poussé à franchir ce pas ?
Oui, alors il faut remettre juste dans le contexte, c'est donc le producteur Christophe Rossignon, qui est donc producteur chez Nord-Ouest Film, qui a produit Une place pour Pierrot. Et notre rencontre a eu lieu lors de la sortie de mon long métrage documentaire, On a 20 ans pour changer le monde. Et voilà, je suis très sensible à la ligne éditoriale de Nord-Ouest Film, au travail de Christophe en général. Et au départ, il a juste exprimé son désir de travailler avec moi. Et puis, il se trouve que je voulais adapter un livre et on n'a pas eu les droits pour des raisons tout à fait compréhensibles d'ailleurs, très personnel à l'auteur. Et c'est Christophe qui en fait, m'a mis sur cette voie-là de faire un film autour de mon histoire personnelle, mais enfin, de façon plus précise, autour de mon lien à mon grand frère Vincent. Voilà. Et j'ai résisté immédiatement parce que j'ai beaucoup explorer ce domaine. D'abord avec un moyen-métrage de fiction, après j'ai écrit un récit qui n'est pas un récit autour de la différence, mais une grande part de ce récit est consacrée à mon frère. Voilà, je suis présidente d'une association et je disais non, il faut que je passe à autre chose, quoi. Et donc j'ai vraiment résisté de façon un peu frontale d'ailleurs. Et puis il m'a dit s'il te plaît, réfléchis. Je lui ai dit écoute, si je suis inspirée pour écrire une histoire universelle qui ne réduise pas en fait mon film à l'autisme, ça peut m'intéresser. Et 3 semaines après, je lui pitchais vraiment le film que vous avez découvert.
Vous dites qu'Une place pour Pierrot, justement, ne parle pas de l'autisme en tant que tel, mais de ce que la différence fait à chacun. Qu'est-ce que cette distinction change dans la manière de raconter ?
Alors, oui, parce que je pense qu'en tout cas, à travers le rôle de Marie Gillin, qui représente donc l'aidante, tout le monde peut s'identifier. Après, c'est là où je fais le lien avec cette différence que je nomme une fois dans le film d'ailleurs, ou deux, très peu, parce que les personnes autistes, je le dis toujours, ont une différence tellement subtile, y a tellement, le spectre est tellement large, et au final, ils ont tous un point commun, c'est une sensorialité exacerbée, ils subissent des troubles envahissants du comportement, à la fois, ils nous sont supérieurs en tout. Voilà, c'est vrai que j'ai une fascination aussi pour cette différence. Et pardon, ma réponse, elle est trop longue, parce qu'en fait, celle que je dois vous donner, c'est que je considère que cette différence raconte chacun d'entre nous. Et c'est là où je trouve que c'est universel.
Le film commence par un acte très concret. Camille décide de sortir Pierrot du foyer où il est surmédicamenté. Pourquoi avoir choisi cette porte d'entrée dans le récit ?
Oui, assez rapidement, c'est vrai. Beaucoup, en fait, pour développer d'abord le personnage de Camille, qui interprète Marie Gillin. Je ne sais pas si le spectateur va le percevoir, mais moi, je travaille beaucoup ce qui n'est pas dit. À la fois à travers l'image, bien sûr, mais aussi beaucoup dans mon travail avec les acteurs et mes choix. C'est-à-dire que Camille, elle est avocate, comme par hasard, elle a voulu faire justice. C'est une femme qui est dans le contrôle, très coupée de sa féminité, pas du tout dans la séduction. Elle est juste belle, mais il n'y a jamais rien d'ostentatoire, d'extérieur chez elle. Et elle est en colère. Et parce qu'au final, à travers l'histoire de Pierrot, on raconte celle de Camille qui m'intéresse beaucoup. C'est comment, tout au long du film, elle va accéder à sa nature profonde. Comment elle va trouver sa place au final. Et voilà, et cette colère, alors peut-être que moi qui n'aime pas trop parler de ma vie personnelle, c'est un fantasme pour moi. J'ai eu très envie de passer toutes les affaires de mon frère par la fenêtre. Voilà. Mon film est vraiment un film de fiction dans le sens où je n'ai pas vécu les situations que je développe. Mais elle me constitue.
La parole de Pierrot est rare dans le film. Comment est-ce que vous avez travaillé avec ce silence, avec ce qu'il laisse passer ou ce qu'il retient justement, ce personnage ?
Alors c'est ce qui m'intéressait beaucoup parce que je trouve ça très cinématographique. Souvent on me dit « Ah Pierrot, c'est votre frère ». Pas du tout. Justement j'ai voulu aussi, mais pas de façon pédagogique parce que ça ne m'intéresse pas, représenter la différence autrement. Pierrot c'est un autiste typique. 85% des personnes autistes sont comme Pierrot, c'est-à-dire avec peu verbal, avec un vocabulaire. Il s'exprime très bien, mais pas élaboré comme une personne Asperger, on dit plus ce mot, mais autiste de haut niveau pourrait l'être, avec des centres d'intérêt très restreints, mais surtout avec cette poésie, cette acuité. En fait, tout est sensoriel. Et c'est là où Grégory Gadebois... Enfin, je le dis souvent, je pense le seul acteur en France qui avait les épaules pour ce rôle. Parce qu'il il est tellement organique dans son jeu. Son écoute, elle irradie. C'est très très puissant, l'écoute de Grégory. D'ailleurs, ses partenaires, les acteurs, en parlent souvent. Quand on est face à lui en tant qu'acteur, on a un monde. Donc quoi qu'il en soit, dans tous les rôles qu'il interprète. Et voilà, ça m'intéressait beaucoup aussi d'essayer de raconter comment une personne différente qui a évolué dans un environnement, on va dire, bienveillant et pas adapté, mais qui laisse la place, permet de développer les potentiels, en tout cas, vraiment de développer l'autonomie et de réduire les envahissements.
Vous avez une expérience du documentaire. Qu'est-ce que la fiction vous permet ici que le documentaire peut-être ne permettrait pas?
Ça, c'est une très bonne question. Parce que j'avais très envie de revenir à la fiction. Enfin, je dis revenir comme si j'avais fait 50 films. Pas du tout. N'importe quoi. Non, non, j'avais fait un moyen métrage de fiction. J'avais adoré ça. Et puis je suis actrice, en fait. Donc, mais c'est vrai que ça, c'était un désir irrépressible pour moi de faire des choix. Et c'est l'endroit du documentaire où, je l'avais raconté récemment à un journaliste, on subit beaucoup, en fait, quand on réalise, surtout quand on est attaché à l'image. On travaille la force de l'intention avec ces personnages. Et quand on tourne un documentaire, malgré tout, il y a une narration qui doit évoluer et on pose des intentions très fortes pour que nos personnages nous délivrent la matière nécessaire à raconter une histoire. Et là, j'avais besoin de faire des choix, donc de savoir exactement où je posais ma caméra, comment je soutenais mes acteurs dans tout ce qui n'est pas dit à travers les dialogues, mais surtout soutenir la succession d'états qu'ils traversent. Et ça, c'est l'image qui permet ça, même si je ne me considère pas du tout... moi, j'aime le cinéma simple, sans effet, sans artifice. Ce sont vraiment les cinéastes qui m'ont constituée et qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et pour vous répondre à votre question dans sa globalité, j'ai aussi profité de mon expérience du documentaire pour créer un dispositif très particulier lorsque j'ai intégré des artistes autistes, donc dans le deuxième décor sur la Côte d'Opale, donc avec des artistes qui font un vrai travail d'interprétation. Il n'y a pas du tout d'improvisation, mais c'est vrai que mon expérience du documentaire m'a permis de me sentir très libre avec ce dispositif qui est assez contraignant au départ, mais dans lequel on trouve beaucoup de liberté. Et voilà, je pense que j'aurais pas pu le faire de cette façon-là si j'avais pas réalisé des docs avant.
C'est intéressant, vous parlez d'intention. La caméra semble souvent à distance dans les couloirs, derrière une porte. Pourquoi avoir choisi cette place pour le spectateur ?
Oui, c'est vrai. Une porte ou des vitres, beaucoup. Peut-être parce que quand la caméra est à cet endroit, ça catalyse... J'ai rien inventé, hein, parce que je le dis dans le dossier de presse, Woody Allen, il a ouvert la plupart de ses films comme ça. Manhattan, il travaille beaucoup comme ça. Claude Sautet a beaucoup fait aussi. Et ça permet de mettre en valeur un troisième œil, en fait. Et voilà, j'aime beaucoup que le spectateur puisse à la fois être en immersion, mais... rester à la bonne distance, en fait, de cette réalité.
Le film évoque en creux la charge mentale des aidants. Est-ce qu'on peut y voir une critique des institutions actuelles ?
C'est clair, c'est une errance. Et alors, ce qui est terrible, c'est que ce ne sont pas les institutions en soi, comme ce foyer médicalisé que j'invente, qui est responsable. Cette différence qu'est l'autisme, c'est donc une errance de 70 ans, voire presque un siècle, où on ne diagnostiquait pas l'autisme correctement. On parlait de personnes psychotiques, bipolaires, schizophrènes. Et c'est cette errance qui a généré, en fait, cette surmédication dans de très nombreuses circonstances. Et encore aujourd'hui. Maintenant, je le dis souvent, accompagner les personnes autistes, c'est une révolution. C'est l'histoire du XXIe siècle, car ça fait très peu de temps qu'on a des recommandations des bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, c'est 2014, que les scientifiques ont vraiment affirmé qu'avec des outils qui travaillent la temporalité, la sensorialité, comme je le fais dans le film avec les pictogrammes, je ne l'explique pas, mais ce sont des outils, ça fonctionne, c'est pas un tour de magie, mais ça fonctionne. Et voilà, donc c'est plus de la méconnaissance, mais c'est vrai qu'on a tout à faire. Bien plus que de créer des lieux adaptés, d'ailleurs, mais former des équipes, former des psychiatres. Moi, je suis allée dans des universités voir des psychiatres en dernière année pour les supplier de se spécialiser aussi, vraiment de connaître ce diagnostic très précisément et quels sont ces outils pour mieux accompagner.
Tout à l'heure, vous nous l'avez dit, vous avez travaillé avec des artistes autistes. Comment est-ce que vous avez justement travaillé avec eux et qu'est-ce que vous avez appris dans cette rencontre artistique-là entre votre regard et ce qu'ils avaient à vous apporter ?
Alors moi, j'avais déjà fait l'expérience avec mon frère, qui est un super acteur. Pareil, dans mon moyen-métrage, il n'y avait pas une once d'improvisation. Les personnes autistes ont ce grand talent. Ils ne sont pas tous, c'est pas tous des bons acteurs, mais la plupart du temps, parce qu'ils sont ici et maintenant. Et c'est quand même ce qu'est demandé un acteur au départ. Action, ici et maintenant. Ils sont incapables de mensonge, incapables de dissimulation. Donc moi, le seul travail que j'ai à faire, c'est de les mettre en situation. Voilà. Et oui, et de les dégager des contraintes techniques, donc de les familiariser avec la caméra, avec l'équipe. Et donc le travail que j'ai fait en amont, c'est de les voir beaucoup avant, de leur raconter l'histoire à chacun d'eux, hein, individuellement et collectivement, à faire en sorte qu'un lien se crée entre eux aussi, et à leur permettre d'oublier en fait plus le poids de la technique qu'autre chose. Parce que sinon, ils ont tout à nous apprendre en termes de jeu, sincèrement.
La chanson de Julien Clerc revient plusieurs fois. Pourquoi ce choix et que représente cette chanson pour Pierrot et pour le film ?
Ouais, c'est la chanson de Pierrot. Et j'ai choisi cette chanson et j'ai beaucoup de gratitude pour Julien Clerc qui nous a permis d'utiliser cette chanson magnifique. Déjà, je voulais une chanson qui vraiment fasse appel à l'inconscient collectif, qui ne connaît pas, ce n'est rien. Et je trouve que c'est la chanson qui symbolise le mieux l'impermanence, que tout passe, qu'on traverse l'ombre et la lumière. Et la vie de Pierrot, c'est ça. Mais la vie de Pierrot, comme la vie de Camille et des autres personnages. Voilà, ce n'est rien. Le temps passe. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté. Combien la force d'une chanson peut apaiser.
On est à quelques mois de la sortie nationale. Vous commencez donc à rencontrer le public. Qu'est-ce que vous espérez que le spectateur emporte avec lui en sortant de la salle ?
Ah, ce qui me comblerait vraiment... Moi, j'ai eu envie de faire un film sur le lien, sur ce qui nous relie. Et je pense que vous l'avez découvert, tous les personnages de mon film sont en quête d'une transformation. Et au regard de l'évolution de notre société, de notre monde, moi, j'ai envie de croire au fait qu'on peut transformer individuellement et collectivement. Et j'espère surtout qu'ils seront touchés par ce qui nous rassemble dans le film. Voilà. Parce que je crois que tous les personnages racontent quelque chose de chacun d'entre nous.
Eh bien, merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Donc, le film est présenté en avant-première ce soir, mercredi 18 juin, au Cinéville de Laval, avant sa sortie nationale prévue le 10 septembre prochain. Merci pour cet échange et bonne rencontre avec le public, Hélène.
Merci beaucoup.
Bah, tu écoutes quoi, là ?
Chut ! C'est la JT du local. Ça me détend les neurones.
Et c'est sur l'autre radio.
Dans quelques instants, la lecture de l'auditeur, mais avant ça, on passe la main à la musique. Il y a des chansons qui racontent l'amour, et puis il y a celles qui racontent ce qu'il en reste. On écoute Marco Emma qui signe un morceau un peu désabusé. Ça s'appelle « Ceci n'est pas une chanson d'amour » et c'est joli. Écoutez.
Changer mon appartement en prétexte d'en faire un peu de ménage. Mon verre à moitié plein me dit que j'aurais jamais dû le remplir autant. Cache ton sourire et crache sur mon visage au passage. Yeah.
T'as jamais trouvé l'allumette de la cigarette de nos jours à venir. J'ai pas cherché non plus, peut-être que j'essayais de te faire fuir. Une aiguille dans une botte de foin, c'est ça que tu m'as fait.
Dans ma vie, le centre du monde, c'est l'amour.
Mon record, c'est Les jeunes filles de Monterland que j'ai lu plus de 100 fois.
J'ai fait semblant plein de fois de discuter avec des gens en disant « Ouais, putain, j'imagine quand même ça, c'est... » Mais en fait, j'ai pas...
Il y a des pages entières qui me hantent, des déclarations d'amour dont je me souviendrai toujours.
On n'a pas trouvé un nom tout de suite à cette séquence. Ce moment est simple et beau, mais c'est la lecture de l'auditeur.
Vous écoutez l'agité du local.
Je vais vous lire « Toujours pas d'amour » de Priscilla. Toujours pas d'amour, toujours pas d'amour, toujours pas d'amour. Des saluts, des bonjours, sourires de velours, mais toujours pas d'amour. Des fleurs, des discours, des appels au secours, et toujours pas d'amour. Comme dit mon cœur de son air moqueur, rien à l'horizon. Comme dit ma tête faisant sa mauvaise tête, je suis en prison. Toujours pas d'amour. Toujours pas d'amour, toujours pas d'amour. J'ai beau garder les yeux grands écarquillés, je ne vois que des saluts, des bonjours, sourires de velours, mais toujours pas d'amour. Des fleurs, des discours, des appels au secours, et toujours pas d'amour. La foudre est tombée et tout a flambé, juste à côté de moi. Mais l'éclair de feu qui rend amoureux n'était pas pour moi. Toujours pas d'amour, toujours pas d'amour, toujours pas d'amour. J'ai beau garder les yeux grands écarquillés, je ne vois que des regards un peu lourds et des mots balourds, mais toujours pas d'amour. Sourire de vautour dit « Tu viens faire un tour ?» et toujours pas d'amour. Les gens et les jours, retard et retour, mais toujours pas d'amour. Des cris, des tambours à vous rendre sourds, mais toujours pas d'amour. J'ai beau garder les yeux grands écarquillés, je ne vois que des regards un peu lourds et des mots balourds, mais toujours pas d'amour. Sourire de vautour dit « Tu viens faire un tour ?» et toujours pas d'amour. Les gens et les jours, retard et retour, mais toujours pas d'amour. Des cris, des tambours à vous rendre sourd et toujours pas d'amour.
L'agité du local sur l'autre radio. Aujourd'hui, deuxième escale à la ferme florale de l'étang de Papy en Anjou. Vous entendrez Charlène parler de son quotidien, un travail physique, passion artisanale, loin des logiques de production rapide. Ici, tout est fait à la main et derrière chaque bouquet, il y a une saison, une joie et un geste passionné. Écoutez. Il y a dans les gestes de Charlène une forme de patience qu'on a un peu oubliée. Préparer la terre, couper une tige, observer une fleur qui s'ouvre. À la ferme florale, chaque journée suit le fil de la nature, pas d'horaire fixe, juste la lumière, la météo, le vivant. Dans cet épisode, on quitte la carte postale pour entrer dans le concret, le travail, le corps, les outils, les doutes aussi.
Charlène, à quoi ressemble une de tes journées à la ferme ?
Alors, j'ai pas vraiment de journée type, mais par exemple, là, il commence à faire chaud, donc tous les matins, je vais arroser dans ma serre. Et puis, selon la chaleur, donc il y a des jours où je vais planter le matin. L'après-midi, ça va être plutôt de l'entretien du terrain. Mais voilà, le matin, ça va être planter, désherber, cultiver, ramasser les fleurs, voilà. Puis je fais le marché du Lion le vendredi. Donc généralement, le jeudi matin, je récolte et je compose mes bouquets l'après-midi.
Est-ce qu'il y a un moment que tu préfères en particulier ou est-ce que chaque étape a son charme finalement ?
Ouais, je pense que chaque étape est importante. Si c'était que de la composition, ça aurait pas de sens pour moi parce que vraiment de pouvoir le faire de A à Z, du semis, de la petite graine, parce que j'achète pas du tout mes plants, je fais tous mes semis, les voir grandir et puis les rater également. Parce qu'il y en a qui ne prennent pas, qui ne poussent pas, on ne sait pas pourquoi. Voilà, mais c'est comme ça, découvrir, faire mieux la fois d'après. Et puis, voilà, récolter, aller voir pousser, être impatient devant chaque fleur qui va sortir. Et puis, puis après, composer les bouquets et voir les clients heureux d'avoir des fleurs, de pouvoir les offrir ou même de se les offrir.
Pour toi, ça doit te sembler évident, mais est-ce que tu peux me décrire le cycle d'une fleur ?
Bah, en fait, ça va être un cercle vertueux parce que du coup... ça va être une graine que je vais semer, arroser, qui va faire un petit cotylédon, qui va pousser. Après, ça va être un jeune plant que je vais avoir besoin de repiquer, puis de remettre après en terre, de continuer à prendre soin, arroser, fertiliser s'il y a besoin, tutorer également. Et puis après, ben, ça va être l'éclosion, donc la fleur qui s'ouvre et la récolte. Ou pas, parce que du coup, il y a des fois où on le récolte en bouton. Donc, on ne le voit même pas s'ouvrir dans le champ. Et puis, bah, composer les bouquets et puis après, les voir s'épanouir voilà, dans le vase. Mais également, certains plants restent sur place. Comme ça, après, ils fanent et puis ça fait les graines. Et puis, les graines repartent pour l'année prochaine pour refaire les semis.
Comment est-ce que tu choisis ce que tu vas cultiver en fonction des saisons ?
Il faut que j'ai de quoi composer un bouquet. Donc, il me faut quand même plusieurs variétés à chaque saison. Donc, il y a toute une planification de culture qui se fait au préalable. Et puis, il me faut au moins 4-5 fleurs. Bon, c'est vrai qu'on peut se dire qu'au mois de mars, quand c'est la saison des tulipes, ne serait-ce qu'un bouquet de tulipes, ça fait plaisir. Donc, voilà. Mais sur le reste de l'année, il faut quand même avoir 4-5 fleurs toute la saison. Donc, à peu près de mars à, on peut dire, octobre. Il faut vraiment qu'il y ait des fleurs sur toute cette période. Et sachant que les floraisons, c'est... une quinzaine de jours sur chaque fleur. Donc il faut vraiment que ça se cumule, soit faire des semis fréquemment, soit en penser à d'autres, quoi.
Est-ce que toi, il y a une fleur que tu aimes tout particulièrement ?
Alors c'est vrai que moi, j'adore le dahlia. C'est vraiment... puis c'est une floraison abondante, c'est quelque chose qui directement est dans un bouquet. Voilà, ça se voit, c'est un peu... puis il y a énormément de coloris, après les fleurs légères et classiques en fin de compte, mais tout ce qui est cosmos, matricaire, même les bleuets, c'est vrai qu'à cette saison, c'est agréable, quoi.
Il y a des métiers qu'on croit connaître où on projette des choses dessus assez facilement. Est-ce qu'il y a des choses que les gens souvent ne soupçonnent pas sur ton métier ?
Eh ben, c'est le temps que ça peut prendre pour cultiver les fleurs. C'est vrai qu'on se dit, bah non, on en a plein notre jardin, ça a poussé tout seul et tout, mais en fait... la floriculture, c'est pas tout à fait la même chose. Ne serait-ce que les tulipes, dans notre jardin, ça pousse, on les récolte quand on veut, voilà. Mais en floriculture, généralement, les bulbes, ils sont jetés chaque année, en fait. Donc, ils sont achetés, plantés à l'automne. Donc, il faut tout un cycle également en terre avec un hiver. Et puis après, ça pousse au printemps. Mais nous, quand on les vend aux fleuristes et de ça, on a besoin de longues tiges. Et du coup, il faut que ce soit coupé court. Et donc, le bulbe, il n'a pas de quoi se régénérer et récupérer en énergie. Parce qu'il n'a plus sa tige et sa fleur qui va faner à la suite et recharger ce bulbe. Donc, en fait, généralement, les bulbes sont jetés chaque année. Moi, aujourd'hui, mon objectif, ça va être justement de garder des feuilles et d'avoir des tiges plus courtes. Donc, ce ne sera certainement pas vendu aux fleuristes. Parce que, voilà, donc ce sera plus pour moi composer mes bouquets. Et pouvoir du coup naturaliser les bulbes de tulipes pour en avoir chaque année les mêmes en terre. Donc ça prend de la place parce qu'il n'y a pas de rotation de culture sur ces planches-là.
J'imagine que chaque fleur, chaque plante a des besoins différents.
Ça s'apprend peut-être même selon l'endroit où tu le mets, j'imagine, dans ce jardin. La plante ne va pas réagir de la même manière, ne va pas s'épanouir de la même manière.
Alors oui, c'est vraiment pas évident parce que du coup, je suis encore en plein test sur le terrain. Mais pour les dahlias, par exemple, c'est vrai qu'on en revient, mais j'en ai planté de plusieurs façons. Il y en a que j'avais mis en sous-serre au préalable en pot. Et en fait, ils étaient beaux quand je les ai plantés en terre, en pleine terre. Sauf qu'en fait, ils ont végété parce qu'il y avait tellement de différence de température entre ma serre et mon extérieur quand je les ai mis en extérieur que du coup, ils ont végété. Et les autres que j'ai plantés directement en terre, donc plus tard, ils ont pris le dessus et c'est ceux-là qui sont en bouton avant. Donc voilà, donc ça permet de tester et de voir. Chaque année est différente. C'est vrai, cette année, on a une année plus sèche. L'année dernière, c'était une année beaucoup plus humide. Donc voilà. C'est à voir et à s'adapter chaque jour, chaque année, selon les saisons.
Travailler avec le vivant, c'est accepter que rien ne soit jamais tout à fait pareil, accepter les lenteurs, les imprévus, les saisons qui résistent. Charlène cultive des fleurs, mais aussi une manière d'être au monde, plus attentif, plus ancré, plus humble peut-être. Demain, ses bouquets changeront, ses gestes aussi, mais ce lien discret entre elles et ce qui pousse restera. Dans le prochain épisode, on parlera de ce qui vient après, les projets, les partages et la façon dont ce petit bout de terre peut devenir un lieu pour les autres. Comme chaque semaine, Donatien nous laisse ici un petit peu de son monde. Et ça y est, nous y sommes. C'est la chronique du jour. Écoutez.
Panne d'ordinateur au moment d'écrire sa chronique. Une contrariété qui agace Donatien, mais aussi l'opportunité de reprendre le bon vieux stylo et la feuille de papier, de raturer, de biffer, de souligner, de tracer des flèches et des bulles. La possibilité de doter la graphie des couleurs de l'humeur, graphie qui, lors de la rédaction, varie avec l'accélération de l'enthousiasme, la lenteur du découragement ou de la réflexion. Le crayon, qu'il soit à bille ou de bois, est un outil puissant que l'on manie du bout des doigts, qui vous envoie sans réservation préalable à l'autre bout du monde, un outil qui assassine sans sommation, qui ressuscite pour de bon, qui fait sourire ou fait pleurer, qui se gausse des contrariétés et qui n'a pas besoin de l'électricité. Donatien voyage dans son passé et sur le cahier à spirale trace le nom Jolie de sa maîtresse de CP, on disait 11e, qui lui a appris à écrire. À l'époque, c'était un porte-plume, il était vert. Il fallait bien y positionner le pouce et l'index. Le modèle changeait selon que l'on était droitier ou gaucher, stigmatisant déjà cette dernière catégorie de meurtriers trop souvent réquisitionnés par les médiocres auteurs de romans policiers. Donatien trempait sa plume dans l'encrier, positionnait soigneusement le buvard au-dessus duquel il s'efforçait de tracer harmonieusement les pleins et les déliés. Il y en eut par la suite des stylos entre les doigts de Donatien, celui offert de la première communion, puis le magnifique stylo-plume offert lors de la communion plus solennelle par son parrain ou sa marraine. À l'entrée en sixième, un Waterman au corps inoxydable, à la plume d'argent, supplanté, c'est une honte, à l'adolescence rebelle par les bics aux quatre couleurs. Plus tard, Donatien reprit son stylo-plume pour écrire ses premières lettres d'amour. Puis vint l'époque des signatures engageant les mariés, l'acquisition de la maison, les autorisations sur le carnet de santé et de correspondance des enfants et pour finir, les procurations quand la raison des grands-parents s'évaporait dans les étoiles. Aujourd'hui, chez le notaire, la main tremble en essayant de reproduire une signature électronique. Triste paraphe, sans âme, ineffaçable et stocké dans un data center pour les 7 décennies à venir. Au présent, Donatien ne craint pas cette grande coupure d'électricité qui plongera dans les ténèbres notre si petite et vulnérable planète. Au clair de la lune, Donatien reprendra sa plume pour écrire un mot à Ariane, un mot d'amour évidemment, qu'il tracera sur le papier et pour ces quelques lignes, l'encre aura la couleur de ses yeux.
Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes, à trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, c'est ton sourire qui me l'a dicté. Dans mes rêves, tu viendras toujours du côté où le soleil se lève. Et si malgré ça j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum des regrets. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux.
C'était L'encre de tes yeux de Francis Cabrel. L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci au Cinéville de Laval et Hélène Médigue. Merci à Charlène pour son accueil à l'étang de Papy à la Jaille Yvon. Et merci à Donatien, notre chroniqueur du jour. Maxime, qu'est-ce qui se glisse dans nos oreilles ensuite?
La soirée commence à 19h avec l'émission Au Catering. Ils vont parler des dernières découvertes musicales sorties il y a moins d'un an. La soirée continue à 21h en faisant un tour dans le monde du rap avec Frères de Chaussures proposé par Fat Chou.
Moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. D'ici là, passez un coup de fil à quelqu'un qui vous manque, dites-lui un mot gentil, ce n'est pas du temps de perdu, s'il vous plaît, faites-le bien.
Bon ben Mimi, on dirait que c'est fini. Oh ben, c'était bien hein.